Radio Kapi. Oh, Kapi. Avec Noëlla Luzitu Kabambi à la présentation.
La surtaxation des produits de première nécessité dans la partie nord de la province du Nord Kivu, les sociétés civiles locales s'en plaignent. Les animateurs de ces sociétés civiles dans les territoires de Lubero et Beni et dans les villes de Butembo et de Beni précisent que cette situation entraîne la hausse des prix de ces produits en cette période de guerre où cette zone est pratiquement asphyxiée économiquement parlant. Le taux de diabète chez les enfants est en baisse selon une étude que mène le Programme national de lutte contre le diabète à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe à Kinshasa. Cette maladie n'est pas aussi répandue chez les enfants comme cela se dit sur les réseaux sociaux actuellement, affirme Dr. Luc Kamanga, directeur du PNLD. Comme invité ce matin, nous avons le Dr. Désiré Aloumeti, gynécologue obstétricien à la clinique Panzi de Bukavu. C'est pour parler de la campagne des opérations gratuites des malformations anorectales et fistules chez les enfants ici à Kinshasa, campagne qui s'est clôturée le samedi 6 juillet dernier. Bonjour à tous. Au Nord Kivu, quatre coordinations de la société civile de la partie nord dénoncent une surtaxation des produits de première nécessité dans leur zone. Les animateurs de ces structures dans les territoires de Lubero et Beni, ainsi que dans les villes de Butembo et de Beni, font cette déclaration à l'issue d'une rencontre qui les a réunis mardi à Butembo. Selon le président de la société civile de Butemboville, cela entraîne une hausse du prix au marché des produits concernés. Il appelle les autorités nationales et provinciales à mettre fin à cette surtaxation, surtout en cette période de guerre où les trois villes de la province sont presque asphyxiées. Mate Sahane, dans ses propos recueillis par Bernard Denyangé.
Un sac de riz qui coûte 23 $, aujourd'hui c'est 26 $. Un bidon d'huile de 20 litres qui coûte 26 $, aujourd'hui c'est 30 $. À cela s'ajoute le frais d'embarquement de produits vivriers comme pommes de terre. Un camion qui on demandait 50 $, actuellement on demande 150 et ça se répercute sur le produit aux marchands quand ils vendent à détail. Donc
nous avons soulevé la question d'asphyxie par les voies routières. La surtaxation des produits de première nécessité est à la une également. Voilà pourquoi nous pensons que l'IGF à travers la DGDA semblerait ne pas voir la souffrance que traverse la population du Grand Nord.
Le conseiller principal en charge des finances du gouverneur militaire du Nord Kivu dit ne pas être au courant de cette revendication. Maître David Moussoubao dit attendre une correspondance de la part des quatre coordinations de la société civile du Nord Kivu avant de se prononcer. Toujours au Nord Kivu, sur le plan sécuritaire, notez que les forces armées de la RDC accusent le Rwanda de violer la trêve humanitaire obtenue par les États-Unis d'Amérique en lançant des attaques simultanées le mercredi sur les positions des FRDC et ses partenaires se trouvant au village Nyang et Mpati. Ces deux villages sont situés à 80 km en profondeur à l'ouest de Kichanga, groupement Bachali Mokoto. Suivez le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu.
Les terroristes du Rwanda Defense Force ont lancé des attaques simultanées sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant au village Nyange Mpati, groupement Bachali Mokoto, et ce, en violation de la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis d'Amérique. Il s'en est suivi un déplacement massif des populations qui a non seulement aggraver davantage une situation humanitaire déjà chaotique, mais aussi causer une entrave au personnel humanitaire pour accéder aux populations vulnérables de cette partie de la province du Nord Kivu. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie le non-respect par le régime de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse, légendaire, à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces en les privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire.
De son côté, la Belgique exhorte le Rwanda à mettre fin immédiatement à ses opérations militaires dans l'est de la RDC et à y retirer ses troupes et son armement. Elle exhorte aussi le M23 à cesser les exactions contre les populations civiles. Le Royaume de Belgique appelle instamment les autorités congolaises à mettre fin de manière effective et décisive à tout type de coopération avec les groupes armés illégaux, y compris les FDLR. C'est en réaction à la conclusion du rapport final du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC, rapport publié en début de semaine. Selon la Belgique, qui se dit extrêmement préoccupée, ce rapport met en lumière la gravité des violations et atteintes aux droits humains et les violations du droit international humanitaire commises dans l'est de la RDC. Dans sa déclaration rendue publique hier jeudi, la Belgique appelle toutes les parties à s'engager résolument dans ce processus diplomatique initié au niveau régional. Une solution politique doit être trouvée afin de parvenir à la paix et à la sécurité dans l'est de la RDC, indique la déclaration. Et puis le chef intérimaire de la MONUSCO et coordonnateur humanitaire en RDC, en mission depuis 2 jours à Beni, est arrivé hier jeudi à Oicha. Bruno Lemarquis est allé évaluer la situation humanitaire dans cette commune rurale, chef-lieu du territoire de Beni, où sont hébergés au moins 25 000 ménages de déplacés, des personnes qui ont fui les attaques des rebelles des ADF dans le territoire de Beni et dans la province voisine de l'Ituri. Sadiq Aboubakar a fait partie de la délégation.
À son arrivée à Oicha, Bruno Lemarquis a visité le site des déplacés de Louvangira. Sur place se trouvent plusieurs déplacés qui ont exprimé leur souffrance au coordinateur humanitaire en RDC. L'un d'eux explique.
Chez moi, j'avais l'habitude de manger 3 fois par jour. Mais pourquoi ici, je mange une seule fois?
Ses parents, aujourd'hui en déplacement avec toute sa famille, se plaignent du manque d'accès à l'éducation pour ses enfants.
Je suis père de famille, mais tous mes enfants ne vont pas à l'école, alors que l'avenir de demain repose sur l'éducation des enfants. Mais les nôtres sont devenus des vagabonds.
Pour sa part, cette femme pygmée a plaidé pour le rétablissement de la paix en vue du retour dans son milieu d'origine.
Au-delà de la famine et d'autres souffrances que nous endurons, nos enfants font face à une stigmatisation, pas des bantous. Nos enfants n'ont pas la liberté de jouer avec les autres ou toucher les biens des bantous. Aidez-nous à retourner chez nous.
En réponse à ces préoccupations, le coordonnateur humanitaire promet de mobiliser davantage les partenaires humanitaires afin d'améliorer les conditions de vie des déplacés. Ceci en attendant le retour de la paix dans les milieux d'origine des déplacés.
Nous le disions dans le sommaire, le taux de diabète chez les enfants est en baisse selon une étude que mène actuellement le Programme national de lutte contre le diabète PNLD à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe à Kinshasa. Selon Dr Luc Kamanga, directeur du PNLD, les résultats à mi-parcours de cette étude démontrent que cette maladie n'est pas aussi répandue chez les enfants comme ça se dit dans les réseaux sociaux actuellement. Il l'a dit au cours d'une conférence de presse hier à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. On l'écoute au micro d'Arcel Kajou. Et Miradin Fouengi.
Il est vrai qu'on a observé quelques enfants qui sont venus chez qui on a diagnostiqué le diabète avec hyperglycémie, mais ce n'est pas un fait nouveau parce que le diabète chez l'enfant existe. Je pense que si tous les hôpitaux faisaient attention, comme l'a fait Kalembelembe, on va certainement dénicher des enfants qui sont porteurs de cette maladie. Un fait est vrai, c'est qu'ici, fort de ce constat qu'on a fait de façon aléatoire, une étude a été initiée pour savoir exactement où est-ce qu'on en est. Cette étude est encore en cours, mais à mi-chemin, c'est-à-dire 2 mois après l'observation, on a quand même de nombreux 11 enfants sur les 400 enfants qui ont été testés, qui sont vraiment diabétiques et ils sont actuellement suivis par le docteur Asanga qui s'occupe de l'unité de prise en charge diabète chez l'enfant ici à Kalembelembe.
Santé encore, en Ituri, plus de 11 800 cas de tuberculose, dont 336 décès, ont été enregistrés dans cette province en 2023. Chiffre publié mercredi par le programme Lèpre et Tuberculose au cours d'une matinée scientifique à l'Université Shalom de Bounia. Selon son coordonnateur, la difficulté d'accès aux structures sanitaires, dont la plupart ont été incendiées ou détruites par les groupes armés, est la principale cause de propagation de cette maladie. Un reportage de Lydia Tchombe, rendu par Arcel Kajouro.
Une forte prévalence de cette maladie est observée dans les zones minières qui représentent environ 50% de patients, affirme le coordinateur du programme Lèpre et Tuberculose. Il s'agit de zones de santé de Bambou, Nizi, Mangala, Mongbualou, dans les territoires de Djougou, Bounia et Wampara, dans les territoires d'Irumu et Nyanya à Mambasa. Parmi les patients, il y a environ 1200 enfants. Le docteur Justin Moukoko le précise que le nombre de malades ne cesse de croître à cause de difficultés d'accès aux soins. Selon lui, plusieurs structures sanitaires pour la prise en charge de malades sont détruites ou incendiées. D'autres ne sont pas opérationnelles à cause de la persistance de l'insécurité. Il demande à la population de se faire dépister pour stopper la propagation de cette pathologie en Ituri. Docteur Justin Moukokole.
Ces données ne représentent que 52% des malades attendus. Donc ça veut dire qu'il y a encore un gap important de malades. Il faut dépister dans la communauté. Et ces malades restent encore dans la communauté et continuent à transmettre la maladie aux autres.
Justin Moukokole précise que la prise en charge de cette maladie est gratuite dans toutes les 36 zones de santé en Ituri qui disposent des stocks de médicaments.
Dans la province de l'Équateur pendant ce temps, en Mbandaka, plus de 3000 ménages bénéficient depuis mercredi des vivres pour le renforcement en nutriments. Il s'agit des foyers ayant au moins un enfant malnutri, une femme allaitante ou une femme enceinte. Les bénéficiaires ont été ciblés par un projet pilote initié par le PRONANUT, Programme National de Nutrition au Kasaï et à l'Équateur. Mais la distribution est effectuée par Caritas diocésaine de Mbandaka Bikoro. Le point avec Paul-Richard Malengela.
La distribution en cours est un projet du gouvernement central initié depuis près de 5 ans, indique le directeur du bureau des soins des œuvres médicales de Mbandaka Bikoro. Le docteur Olivier Nguilan ajoute qu'il concerne 3117 ménages répartis dans les trois zones de santé de Bolingue, Mbandaka et Wangata, au chef-lieu de l'Équateur. Le directeur Nguilan précise également le kit remis à chaque bénéficiaire.
Le kit est constitué d'un sac de haricots de 25 kg, un bidon d'huile de 5 litres, un petit sac de sel de 5 kilos et puis des ménages pour un sac de semoule de maïs de 25 kilos.
En autre passage ce jeudi au site de la paroisse catholique d'Air Congo, il y a plusieurs bénéficiaires qui proviennent de la localité de Jombo. Ce site de production agricole seulement à 9 km de la ville enregistre pourtant plus de 200 enfants malnutris. Explication de l'infirmier titulaire du centre de santé de Jombo, Willy Bayimbi.
Pour nous, en troisième position, c'est la malnutrition. Presque toute la population part dans des forêts. Depuis le matin jusqu'au grand soir, les enfants restent et même à la maison, il n'y a même pas vraiment beaucoup de choses à manger. Et dès que les parents arrivent, l'alimentation n'est pas vraiment équilibrée.
Les bénéficiaires ont remercié les autorités, mais vu les avaries dues au retard et aux conditions d'acheminement de ces vivres, Willy Baibi plaide pour un appui au ménage afin de produire des nutriments locaux, lesquels prolongeraient la prise en charge de malnutrition, estime-t-il. Bandaka pour Chamalingue, la radio Okapi.
20 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe que va débloquer pour les trois ans à venir en RDC Education Cannot Wait, ECW, Fonds des Nations Unies, destiné à l'éducation des enfants vivant en situation d'urgence. C'est pour soutenir l'éducation en situation d'urgence et des crises prolongées dans le pays, dans le cadre de la mise en œuvre du programme pluriannuel de résilience en cours d'élaboration. Déclaration de Graham Lang, directeur adjoint de ECW, hier jeudi à Kinshasa, au sort de la séance de travail avec la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Maloudinanga. On écoute Graham Lang dans ses propos recueillis par Alain Hirung.
Madame la ministre, effectivement, nous a guidés pour les priorités du ministère de l'Éducation. Et elle a soulevé quatre priorités clés pour l'avenir. Le premier, c'est d'assurer que le programme réponde à la stratégie nationale d'éducation en situation d'urgence qui va être produite dans les mois qui viennent. Le deuxième, c'est d'assurer que le programme va renforcer les capacités d'administration nationale et provinciale. Le troisième est effectivement d'assurer que le programme est basé sur une évaluation des programmes existants et dans le précédent. Et dernièrement, d'assurer que, effectivement, dans l'avenir, que le programme sera cohérent avec tous les autres investissements au RDC pour qu'il y ait une bonne collaboration et coordination avec tous les programmes et tous les investissements. On est tout à fait d'accord avec tous les points qui sont soulevés par le ministère de l'Éducation. On aimerait bien que ce programme, dans les années qui viennent, est conçu ici au RDC par l'administration de l'État pour l'éducation nationale et aussi qu'il réponde aux priorités et aux besoins pour l'éducation en situation d'urgence.
Notez que selon le ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, plus de 300 000 enfants ont été contraints de stopper leur scolarité après la fermeture de leurs écoles suite aux conflits armés ou à des catastrophes naturelles à travers la RDC.
Actualité internationale.
Au Niger, évasion hier de la prison de haute sécurité de Koutoukalé, tout près de Niamey, la capitale. Un grand nombre de prisonniers a réussi à s'échapper avec des armes. Les forces de sécurité nigériennes se sont lancées à leur poursuite. Notez que plus de 200 terroristes étaient enfermés dans cette prison de Koutoukalé de haute sécurité.
L'invité.
La clinique Panzi de Bukavu a clôturé le 6 juillet dernier la campagne des opérations gratuites des malformations anorectales et fistules recto-vaginales chez les enfants. Cette campagne a été organisée à Kinshasa dans le but de soigner plus d'enfants souffrant de malformations congénitales et pour soutenir leurs parents démunis. Pour en parler, nous recevons dans ce journal Dr Désiré Alumeti. Il est gynécologue obstétricien dans la clinique Panzi de Bukavu. Il s'entretient avec Arcel Kajourou.
Docteur d'Israël, dites-nous, combien d'enfants avez-vous soigné durant cette campagne?
Nous avons soigné 19 enfants au total, dont 15 filles et 4 garçons. Les garçons aussi, c'était des problèmes liés aux malformations, mais parmi eux, il y avait 2 pour malformation anale et les autres, c'était pour la malformation au niveau du pénis.
Les enfants que vous avez soignés, tous sont déjà rentrés ou bien ils sont encore là pour le dernier soin?
La plupart sont rentrés, mais il y a d'autres qui sont encore là pour les derniers soins parce que les suivis, beaucoup plus pour les malformations anorectales, surtout chez les enfants déjà âgés. Quand je dis enfants âgés, c'est au-delà d'une année, ça prend un peu 21 à un mois de suivi. Un suivi avec des soins locaux qu'on appelle les bains de siège. C'est ce qu'ils sont en train de faire au niveau de la clinique.
Et ces suivis, au cas où ça prendrait un mois, c'est toujours l'hôpital qui assure?
Oui, tous les soins sont gratuits jusqu'à la guérison, donc c'est l'hôpital qui assure. Parce que ça ne sert à rien de soigner et puis laisser les malades dans la rue. C'est ce malade qu'on assiste à des complications qui prochainement deviennent très difficiles à prendre en charge. Et donc notre campagne a été focalisée sur prise en charge totale des enfants souffrant de malformations congénitales.
Par rapport à comment est-ce que les parents sont en train de venir, mis à part le 19 cas que vous avez soigné, il n'y a pas eu d'autres cas?
D'autres enfants qui sont venus et qui devaient donc même venir. Nous avons déjà un programme, un total de 12 enfants qui attendent et je crois que nous allons les prendre en charge lors de la seconde mission.
Et la seconde mission commence quand?
En fait, nous n'avons pas de précision jusque-là parce que nous devons faire rapport au bailleur, au professeur Denis Mukwege qui nous a envoyé ici à Kinshasa. Et la façon dont il va apprécier ce que nous avions fait, il pourra peut-être nous envoyer, revenir dans 3 mois.
Toujours pour les enfants?
Toujours pour les enfants. Et quand on dit enfants, c'est de 0 à 15 ans. Vous voyez que les plus petits que nous avons opérés ici avaient 1 année et les plus grands ou la plus grande avait 15 ans. Donc moi, je soigne les enfants de 0 à 15 ans.
Mais docteur, il y a juste une petite remarque. C'est vrai que les enfants naissent avec des malformations. Mais comment est-ce que la mère peut faire, ne fût-ce que durant la période où elle est enceinte, de se protéger ou pour éviter que l'enfant naisse avec ce genre de malformations?
Généralement, ces malformations surviennent de façon inopinée, donc on n'a pas vraiment une relation cause à effet. Mais si il faut vraiment le prévenir, faut que les femmes fassent les consultations prénatales, les CPN. Et là, il y a une petite molécule, un petit médicament qu'on appelle acide folique, qui peut aider à prévenir ces malformations. Donc, on a remarqué qu'une carence en acide folique est à l'origine des survenir des malformations qu'on appelle les malformations du type néral, y compris les malformations anorectales. Mais empiriquement, il est dit que ces malformations surviennent entre un cas et sur 3500 naissances. On en aura toujours chaque fois quand il y a plus de 3500 naissances, il y aura au moins un cas de malformation anorectale.
Alors, vous voulez savoir par rapport aux difficultés rencontrées durant en fait la campagne ou bien ces opérations?
Je crois que la première difficulté, c'était les coupures intempestives du courant électrique. Ici, nous avons les générateurs, mais bon, il y a eu vraiment des coupures intempestives du courant. La deuxième difficulté, c'est quand on opère ses enfants, parfois on est appelé à faire des transfusions. Surtout que nos enfants, de façon générale, sont anémiques. Donc j'ai opéré des enfants avec des taux d'hémoglobine de 10, de 8. Et quand ça saigne, il faut transfuser. Et une poche coûte entre 20$, 30$, tu vois que c'est énorme. Donc troisièmement, c'est l'accommodation de ce malade. L'enfant vient avec sa grand-mère et sa maman, ça fait plus de 3 personnes alimentées. Là, ça pose d'énormes problèmes.
19 enfants, c'est peu en fait, parce qu'il y a plusieurs enfants ici à Kin qui ont quand même des malformations.
Oui, ça paraît être peu par rapport aux malformations de façon générale. Nous avons focalisé notre attention sur les enfants qui n'avaient pas d'anus, qui avaient un problème de malformation anorectale. Les autres enfants souffrant d'autres malformations n'ont pas fait sujet de notre campagne.
Docteur Désiré Lumiti, la radio Okapi vous remercie.
Et c'est la fin de ce journal. Merci aussi à vous tous qui l'avez suivi.